Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Voilà, nous examinons un petit peu les définitions qui sont afférentes à la notion de culture générale. Je rappelle que je m'inspire de mon livre « Comprendre la culture générale » qui est paru chez Ellipse à Paris il y a plus de 20 ans maintenant et qui est encore disponible en version papier, mais dont une version électronique est en préparation et sortira bientôt. Alors, le premier chapitre de ce livre est consacré aux définitions. Donc, dans toutes les émissions précédentes, nous avons creusé cette notion de définition. Nous avons vu que la culture, c'était le sens du futur, par exemple, qu'elle avait pour socle le langage, les mots, les signes, etc. Enfin, tous les signes substitutifs. Et la dernière fois, nous avons vu que l'autorité était affaire de projection. Nous projetons sur certains êtres une aura, A-U-R-E-A, qu'ils n'ont pas forcément. Nous nous soumettons. Alors, ces soumissions peuvent être aliénantes. J'avais cité la phrase de Pascal qui dit que par l'habitude, justement, nous acquérons une seconde nature. Pascal dit aussi, de façon tout à fait cynique et ironique, je cite, « Il ne faut pas que le peuple sente la vérité de l'usurpation. Elle a été autrefois introduite sans raison. Elle est devenue raisonnable. » Il faut la faire regarder comme authentique, éternelle, et en cacher le commencement si on ne veut pas qu'elle prenne bientôt fin. » Fin de citation. Eh bien, cette phrase de Pascal, c'est l'épigraphe d'un livre de Viviane Forrester, qui est paru chez Fayard en 1996 et qui s'appelait « L'horreur économique ». Ce livre nous montre le réel tout nu derrière tous les alibis et toutes les projections. Le réel est le suivant, il faut qu'il y ait des chômeurs pour que la bourse monte, vous voyez. Donc Brecht a opéré une pareille déconstruction dans la vie de Galilée, puisqu'il fait dire à Galilée « on épuise la confiance à trop exiger d'elle ». J'avais dit aussi que les cultures étaient basées sur la confiance, la fiducia, un respect fiduciaire. Un virement de crédit qui est porté au compte de certains êtres. Alors, les soumissions peuvent être totalement aliénantes. Que de fois l'habitude induit des comportements masochistes qui sont basés sur le conditionnement, la peur, par projection irréfléchie. Par exemple, nous chérissons notre esclavage, nous baisons la main qui nous frappe. Baudelaire le dit dans Le Voyage. Et le peuple amoureux du fouet abrutissant. Et par exemple, il y a une soumission aveugle à l'autorité en milieu scolaire, comme le montre par exemple Stella Baruch dans un livre paru en 1985 au Seuil qui s'appelle « L'âge du capitaine ». Elle prend le cas de problèmes de mathématiques absurdes, posés aux élèves et auxquels quand même ils cherchent une solution. Par exemple, on peut dire, étant donné la force du vent dans telle traversée, étant donné le tonnage du bateau, étant donné ceci, cela, dites quel est l'âge du capitaine. La question est absolument absurde. Mais l'élève naïvement projette justement sur son professeur une image d'autorité. Il s'imagine que si on lui pose la question, elle doit y avoir une réponse. Alors on se creuse la tête pour trouver l'âge du capitaine, ce qui est absurde. Donc, comportement masochiste, je l'ai dit. Parfois, vous avez des comportements sadiques. Le cas de Eichmann, par exemple, qui s'est abrité derrière la soumission aux ordres qu'il recevait, pour persécuter les Juifs. Anna Arendt a bien montré, justement, dans son livre Eichmann à Jérusalem, que le mal n'était pas forcément dû à un côté démoniaque de l'homme, mais c'était un conformisme, une soumission que Stanley Milgram, comme je l'ai dit dans la dernière émission, avait analysé dans ses expériences sur la soumission à l'autorité, vous voyez. Donc, on fait le mal souvent parce que on reçoit des ordres que l'on ne veut pas mettre en question. Eichmann était un petit fonctionnaire zélé qui ne faisait qu'exécuter. C'est comme cela qu'il s'est s'est défendu. Bien sûr, il serait facile d'y voir un monstre, mais je crois que plus de réflexion nous mène à y voir justement un scénario très fréquent dans nos vies. Hein. Donc, on peut être paralysé par la peur, justement, que l'on éprouve par cette projection mentale de l'autorité. On peut être aussi amené à devenir un bourreau, un tortionnaire, par une pareille projection. Mon supérieur sait ce qu'il fait, donc je lui obéis, etc. Vous voyez ? En réalité, qu'est-ce qu'il y a à la base de tout ça ? À la base de tout ça, il y a la peur. Hein. Ce sont nos peurs qui font l'autorité. Et là, il faudrait lire un livre qui est sorti chez Gallimard en 1996, qui est assez ancien, qui s'appelait « La maladie d'être mouche » et dont l'auteur était Anne-Lou Steininger. Hein. Voici ce qu'elle dit. Je cite « Mouches à trouille, l'ordre est trompeur, j'ai bâti mon royaume sur vos peurs, qui me délivrera de la crédulité ?» En effet, on peut asservir toute une population en alimentant et en exploitant ses peurs. On voit bien cela dans la pièce de Jules Romain, Knock. Hein. Knock est un médecin, mais un imposteur. Et alors, il veut réduire à sa merci tout un canton. Et il persuade à tous les habitants du canton que ce sont des malades en puissance. L'axiome de Knock, c'est « tout bien portant est un malade qui s'ignore ». Et finalement, ces gens-là, qui sont de robustes paysans et qui, à l'origine, sont pleins de bon sens, ils deviennent paralysés par la peur que Knock leur a inculqué. Ils se disent « moi aussi je peux être malade ». Et alors finalement, Knock met au lit, dans le lit, tous les habitants de son canton. Il dit à tel moment « à pareille heure, tout le monde prend sa température, etc. » Vous voyez ? Alors, c'est une pièce amusante, hein, mais aussi, qui fait beaucoup réfléchir. On peut... par la peur qu'on inculque aux gens, assouvir sa volonté de puissance et les aliéner complètement. Je pense aussi à un poème de Jacques Prévert dans Spectacle. Voici ce qu'il dit, c'est sur les sardines, c'est amusant. Sardines protégées par une boîte, boîte protégée par une vitre, vitre protégée par les flics, flics protégés par la peur, que de protection pour de simples sardines, vous voyez ? Donc, c'est la peur qui, justement, très souvent, habite l'esprit des gens. Hein, et il n'y a pas d'objectif, de regard objectif. Hein, il y a un regard abusé par les projections. Alors, j'ai cité dans l'émission précédente le cas du professeur Keating dans le film que j'aime beaucoup, Le Cercle des Poètes Disparus. Hein. C'est un film de Peter Weir. Hein. Il veut apprendre aux élèves le relativisme des visions, le danger d'un regard seulement admiratif ou soumis. Hein. Il veut leur montrer qu'il faut s'émanciper des conditionnements. Mais enfin, il ne faut pas oublier la fin de ce film, qui est tragique. Et de façon tout à fait vraisemblable, on y voit que le professeur est congédié. Hein. Comme le disait Guy Béard dans sa chanson, « Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté ». Donc voilà, je pense que le dossier est maintenant assez ficelé. Hein. On voit bien qu'une culture fonctionne par projection symbolique. Hein. Il y a une ambiguïté du phénomène, il faut être conscient de cela. Attention, il y a parfois une intelligence du respect. Je ne suis pas pour la critique absolue ou la déconstruction absolue de toutes les constructions symboliques, hein. Pas du tout. L'esprit critique ne doit pas être l'esprit de critique. Hein. Je ne suis pas pour détruire tous les usages culturels, parce qu'une construction, une déconstruction totale pourrait faire de celui qui l'opère un pompier pyromane, par exemple, ou un arroseur arrosé. Je répète, il y a parfois une intelligence du respect. Simplement, quand nous respectons, il faut savoir que c'est nous qui respectons. Et pourquoi nous respectons, vous voyez ? Quand nous respectons quelqu'un pour la fonction qu'il incarne, il faut bien différencier justement la personne de la fonction. Nous pouvons ne pas apprécier une personne, mais il y a une fonction qui peut être respectable. Alors bien sûr, jusqu'à un certain point, parce que tout n'est pas loisible ici, hein. Bon, simplement, je pense qu'il faut réfléchir aux conditions de nos délégations de pouvoir, en quelque sorte, aux conditions de notre respect, Il n'y a rien de pire que le conformisme, mais aussi il n'y a rien de mieux que l'enquête. Hein. C'est pourquoi je pense qu'il faut aller à la recherche de nous-mêmes pour savoir pourquoi nous agissons en telle ou telle circonstance comme nous le faisons. Nous allons en voir quelques exemples après la virgule musicale. Voilà, alors nous allons entrer maintenant dans le concret des choses. Nous allons essayer de voir certaines façons et coutumes que nous pratiquons, hein, et d'en voir l'origine. Alors, je vais prendre quelques exemples. Alors là, c'est vraiment très concret, très facile à comprendre. D'abord, si on nous demandait pourquoi nous levons notre chapeau pour saluer quelqu'un, nous serions bien en peine de répondre. Nous avons même l'impression qu'il en a toujours été ainsi. L'origine de cette coutume s'est perdue pour nous. Elle nous semble normale, naturelle, universelle. Et nous ne faisons pas réflexion qu'elle était ignorée, par exemple, des anciens Grecs et des anciens Romains, et qu'elle est ignorée aujourd'hui par bien d'autres que nous. Hein. Cette coutume de se découvrir remonte à l'époque médiévale, car se découvrir alors, ôter son casque pour le guerrier, c'était se mettre à la merci de l'autre. On risquait de recevoir un grand coup d'épée sur la tête, si vous voulez. C'était donc un signe d'allégeance et de confiance maximale, comme de tendre à quelqu'un sa main droite, qui est en principe la plus forte des deux, pour les droitiers au moins. Prenons des coutumes ou des expressions, comme par exemple « toucher du bois », croiser les doigts, eh bien, cela renvoie à la croix qui nous sauve, dont parle l'apôtre Paul. Hein. Mais aujourd'hui, on dit « je touche du bois pour me porter chance », il ne s'agit plus dans notre esprit de la croix salvatrice. Hein. Bon. Comme les comportements, le langage est saturé de mémoire, mais cette sédimentation est oubliée aujourd'hui la plupart du temps. Par exemple, l'expression « bon sang hein, » renvoie au sang salvateur du Christ, hein. Ainsi que des jurons substitutifs du type « morbleu »,« sacrebleu », »,« palsambleu », qui sont des euphémismes où le mot « bleu » remplace « Dieu », dont le nom par respect ne doit pas être prononcé, comme dit le Deutéronome au chapitre 5, verset 11. Vous voyez que Dieu a donc lui eu aussi, il a eu aussi sa période bleue, comme on le dit à propos de Picasso, je crois, vous voyez. Hein. Donc, voilà, quand on dit mort bleue, c'est par la mort de Dieu, sacre bleu, c'est par le sacré Dieu, etc. Par sang bleu, par le sang de Dieu, vous voyez. Hein. Je pense par exemple au juron Jarny Coton. Hein. Il me semble que c'est le père Coton qui était le confesseur d'Henri IV, je crois, hein, sous réserve de vérification. Comme Henri IV disait toujours Jarny Dieu, eh bien le père Coton aurait dit dites Jarny Coton, comme ça vous n'offenserez pas Dieu, vous m'offenserez moi, vous voyez. Hein. Alors prenons d'autres exemples. La superstition, qui consiste à ne pas vouloir passer sous une échelle, a une signification religieuse. Ce serait briser le triangle sacré que forme l'oblique de l'échelle avec la verticalité du mur, et ce triangle, c'est l'image de la Trinité, vous voyez. De même, s'effacer devant une femme pour lui permettre de pénétrer avant nous dans une pièce, se lever pour lui céder la place dans les transports publics, etc., ce sont des attitudes de galanterie qui remontent à la civilisation courtoise médiévale. L'homme occidental a alors senti le besoin de compenser l'infériorité physique féminine par des égards particuliers. Des civilisations entières ont ignoré ce type de conduite et l'ignorent encore. Si ces usages actuellement venaient à disparaître, sous prétexte qu'ils sont hypocrites ou conduisent à une discrimination entre les hommes et les femmes, il n'est pas sûr que les femmes aient beaucoup à y gagner. Bon, les féministes nous disent « Non, hommes et femmes sont égaux, il n'y a pas lieu de traitement particulier. » Mais supprimer la galanterie, qu'est-ce qu'elles y gagneront ? Est-ce qu'on veut revenir, alors je dis toujours, à l'homme des cavernes qui tient d'une main sa femme par les cheveux et de l'autre qui tient sa massue, vous voyez ? Donc, je ne sais pas si on y gagnera. Maintenant, je sais bien que l'on m'objectera qu'on ne se lève plus dans le tramway ou dans le bus pour céder sa place. Je pense à ce que disait Groucho Marx à une femme dans les transports en commun. Il disait « Je vous céderai bien ma place, mais elle est déjà occupée. » Donc, je sais bien que ces usages sont en voie de disparition. Mais c'est dommage. Moi, je pense que c'est vraiment dommage. Alors, autres exemples. L'arbre de Noël, les œufs de Pâques. Qui est-ce qui connaît encore leur signification aujourd'hui ? Au début de l'hiver, au moment tragique du solstice, où les nuits sont les plus longues et les jours sont les plus courts, dans l'incertitude angoissée de voir les beaux jours revenir, on célèbre magiquement le retour du printemps et la fête du soleil invaincu, Sol Invictus, par l'installation dans la maison d'un arbre vert. Et l'homme va alors se délivrer d'une vieille terreur, et si le soleil ne revenait pas ? Et il n'est point indifférent que le symbole soit un arbre. En outre, cet arbre a une généralité, un pouvoir d'universalité ou d'abstraction que n'a pas, par exemple, la crèche, qui est bien événementielle ou anecdotique en regard de lui. Vous voyez, cet usage de l'arbre vient des pays protestants ou réformés, où il était dirigé contre l'idolâtrie de la crèche. Mais c'est aussi la survivance d'une vieille pratique païenne ou agreste. Voilà tout ce qu'on pourrait appeler les arrière-plans ou tout l'implicite du sapin de Noël. Et cela, il est intéressant de le connaître et de le redécouvrir pour enrichir par l'intelligence l'observation de cette coutume et pour la justifier, vous voyez ? Alors, de la même façon, l'usage d'offrir des œufs, qu'ils soient coloriés ou non, le jour de Pâques, vient du fait qu'on a considéré l'éclosion de l'œuf comme un symbole de la résurrection du Christ, vous voyez ? Mais aujourd'hui, le sapin est en plastique, l'arbre disparaît devant le cadeau, et aujourd'hui, beaucoup plus de gens voient dans Noël, qui est pourtant la commémoration de la pauvreté comme valeur suprême, il ne voit qu'un temps de dépenses et de cadeaux, une occasion de faire ripaille, de s'empiffrer. Donc le signe subsiste seul, sans la signification, voyez ? Et ça, c'est absolument dommage. Alors, autre exemple, ça fait un peu un catalogue à la Prévert, ce que je vous expose, mais enfin, c'est assez amusant. Pourquoi les vêtements masculins se boutonnent-ils chez nous dans un sens et les vêtements féminins dans un autre ? Et là encore, c'est au Moyen-Âge que cette coutume est apparue. En effet, le guerrier avait besoin de pouvoir tirer son épée aisément de la main droite, et sa main gauche boutonnait le vêtement. La mère, au contraire, tenait le bébé de son bras gauche, et pour allaiter le bébé, elle dégrafait son vêtement de la main droite. Voilà l'origine d'une coutume étrange. Alors je vous invite, auditeurs, à faire l'expérience. Si vous êtes homme ou femme, voyez ce qui est plus pratique pour vous et quelle est la main qui est la plus libre dans cet usage de façon de boutonner différente. Et à la même nécessité, obéit l'usage pour l'homme de donner à la femme son bras gauche, puisque le bras droit doit toujours être disponible pour tirer l'épée. Et ça se trouve lors des mariages, dans le cortège nuptial. En effet, le futur marié donne toujours à la future mariée son bras gauche, vérifié. Alors, autre exemple. D'où vient l'usage de mettre sa main devant sa bouche quand on baille ? Eh bien, c'est pas du tout un usage, un but d'hygiène, pas du tout. Hein. C'est qu'on s'imaginait au Moyen-Âge que le diable pouvait entrer dans le corps par l'ouverture de la bouche et on redoutait cette intrusion du diable. Et aujourd'hui, on accomplit ce geste machinalement, mécaniquement, sans signification. Nouvel exemple. Pourquoi est-ce que nous partageons une boisson en choquant nos verres, en trinquant ? Eh bien, c'est qu'au Moyen-Âge, on se méfiait d'être empoisonné. Aussi, le choc des verres permettait, par le mélange d'un peu de leur contenu, de s'assurer qu'on ne risquait rien de la part de celui avec lequel on le faisait, ce choc des verres. Mais aujourd'hui, évidemment, on trinque sans savoir cela. Hein, vous voyez ? Bon. Donc c'est assez amusant, hein, mais finalement, je crois qu'il est intéressant de s'explorer soi-même en faisant une auto-ethnologie. Autre exemple, je ne sais pas si des auditeurs portent la moustache, mais s'ils portent la moustache, ils devraient savoir que cet usage est dû aux chrétiens, qui ont voulu, dans l'Espagne occupée par les morts, se distinguer de ces derniers qui ne portaient que la barbe. Et avec la barbe, la moustache faisait une croix, qui était un signe de reconnaissance et de ralliement. Autre exemple, pourquoi est-il d'usage de passer la bague de mariage à l'annulaire de la main gauche et pas ailleurs? C'est qu'on pensait qu'un nerf spécial allait directement de ce doigt jusqu'au cœur. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Je ne suis pas anatomiste, mais en tout cas, c'est beau. On pourrait dire que si ce n'est pas vrai, c'est bien trouvé. Comme on dit en italien, c'est non è vero e ben trovato. Hein, et il y a des cas où la beauté seule d'une chose, c'est sa vérité. Vous voyez? Alors pourquoi aussi prie-t-on dans l'Occident moderne à genoux, alors que les premiers chrétiens, les orants ou les orantes, priaient debout? Eh bien, cet agenouillement vient de la chevalerie médiévale. Il signifie l'humilité, l'acceptation des délais du temps. Et l'historien Jean-Claude Schmitt a étudié tout cela dans son livre « La raison des gestes dans l'Occident médiéval ». Donc, ce qui habite les esprits se traduit dans les comportements. On peut douter qu'il y ait un seul geste sans histoire et sans culture, un seul geste qui soit vierge d'influence. Une sémiologie quelconque du visible, sémiologie ça veut dire science des significations. Hein. Pensons par exemple à l'histoire de l'art, au décryptage des tableaux, etc. Une sémiologie du visible n'est pas possible sans ses insertions, sans ses élargissements. Le singe humain, comme le disait Desmond Morris, peut-il être nu, peut-il être sans culture ? À l'évidence, les gestes, autant que tous les langages, sont codés. Alors, je vous renvoie à l'histoire des mœurs parue dans l'encyclopédie de la Pléiade entre 1990 et 1991. Il y a deux tomes. Hein. Tout cela est bien montré. Donc, dernier exemple que je prendrai, le fait pour l'homme et pour la femme de faire l'amour en se faisant face l'un à l'autre. Hein. Eh bien, ce n'est pas naturel. Puisque la femelle des animaux tourne le dos au mâle dans l'accouplement. Et les premiers hommes procédaient ainsi. Et puis un jour, l'attitude a changé. On le voyait bien dans le film de Jean-Jacques Haneau, La guerre du feu. C'est la position dite du missionnaire. Alors attention, c'est pas la position prise par le missionnaire, hein, c'est la position conseillée par le missionnaire, bien entendu. Hein. Alors, un élément décisif de toute la culture humaine, c'est dans ce changement. Puisque ce changement a permis quoi ? A permis l'échange des regards, la considération, au double sens de ce mot considération. Considération, ça veut dire le fait de se voir, hein, et aussi se respecter. J'ai de la considération pour quoi ? Pour toi. Donc là, on est dans l'espace de la culture, qui est l'espace de l'humain. Hein. Et il ne faut pas croire naïvement que tout ce que nous faisons a toujours existé. Alors, de la même façon, Lévinas, dans son livre « Du sacré au saint », qui est paru chez Minuit en 1977, il définit comme l'essentiel de l'homme la considération par le regard. Et là est l'espace, comme il le dit, du saint, hein, à opposer à celui où se manifestent simplement et élémentairement les forces de la nature, qu'on peut bien nommer au contraire espace du sacré, vous voyez. Alors bien sûr, on peut toujours vouloir revenir au sacré en se déshabillant de l'humain. Par exemple, dans l'amour physique porté à son point d'extrême intensité, hein, on se déshabille de l'humain. Voyez le beau poème de Saint Jean de Perse, le beau recueil qui s'appelle « Amer hein. ». « Ses larmes, mon amour, n'étaient point larmes de mortel ». C'est très beau, hein, mais cela a de la grandeur. Une grandeur imposante, majestueuse, parfois, mais elle n'est pas humaine. Peut-être surhumaine, hein, surhumaine n'était point l'arme de mortel, mais parfois aussi inhumaine, comme on le voit dans le film « L'Empire des Sens » d'Oshima, qui est inspiré des idées de Georges Bataille. Le titre initial de « L'Empire des Sens » était « La corrida de l'amour ». Donc là, c'est la revanche de la nature, hein, sur la culture, hein. En tout cas, pour revenir à notre position du missionnaire, que l'essence de la personne soit dans le regard, voyez l'expression « croiser un regard », on le voit encore aujourd'hui avec le problème très actuel de la burqa dans certaines rues. Hein. Ce sont des femmes ensevelies comme des spectres errants, des sortes de belphégores, hein, à qui toute humanité est déniée puisqu'on n'en voit pas les yeux ni le regard. Eh bien voilà, je crois que nous allons en rester là. Si vous avez d'autres idées d'usage et d'autres questions à poser sur l'origine des usages, vous pouvez me les communiquer hein, par l'intermédiaire de la radio. Hein. C'est passionnant, ces histoires des usages. Donc au lieu de mécaniquement, machinalement faire des choses, il faudrait se demander si au contraire, il n'y en a pas une origine. Et parfois, c'est très intéressant de la trouver, cette origine, parce que cela nous enrichit. Voilà, alors maintenant je vous dis rendez-vous à la prochaine émission où nous creuserons alors la différence entre les cultures et les traditions. Au revoir à tous.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.